Écoutez, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 84. Le psaume 84, je vais le lire et ensuite je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce psaume ce matin pour notre étude. Le psaume 84 que je vais lire. Les délices de la maison de Dieu. Donc ça c'est le titre dans ma Bible. Au chef des chantres sur la guitite. Des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. On l'a chanté ce chant. Je répète. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. J'ai presque envie de ne pas prêcher, ça c'est tellement clair déjà, mais je vais quand même dire quelques petites choses là-dessus, d'accord? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une date intéressante, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2007. Et donc il veut dire que demain c'est le dernier jour de l'année 2007. Et mardi, lorsque nous nous réveillerons, ce sera le premier jour de 2008. C'est quand même étonnant de penser que voilà, les années au fur et à mesure eh bien, avancent et on vieillit tous. Ça c'est peut-être la bonne ou la mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que plus nous vieillissons, plus nous rapprochons du jour où nous verrons le Seigneur. Visuellement. Donc, ce n'est pas un mal de vieillir. Mais c'est vrai que nous vivons des jours formidables, non seulement dans le monde, dans cet avancement de l'histoire que nous sommes en train de vivre, mais aussi par rapport, comme on l'a déjà évoqué et prié ce matin, par rapport à cette nouvelle Église que nous sommes. Une Église que nous voyons naître devant nos yeux. C'est quand même étonnant. Je me dis souvent, quand je vais à Genève, je vois des bâtiments, je vois d'autres églises, parce qu'il y a plein d'églises à Genève, je me dis, un jour, quelqu'un a pensé à cette église, l'a construite, et il y a eu une église, mais il fallait que quelqu'un y pense, que quelqu'un rêve de cette église. Ben, nous sommes dans un projet de rêve qui se concrétise d'une nouvelle église. Alors, je me suis bien sûr posé la question, que apporter pour ce dernier culte de l'année ? Comment devons-nous anticiper l'année à venir, et cela en tant que nouvelle Église? Qu'est-ce que Dieu veut de moi et de toi en 2008? Certainement, il y a pas mal de réponses. Mais voici la réponse que j'aimerais, moi, donner ce matin vis-à-vis de moi, et j'espère que vous vous joindrez à ma réponse. J'espère de tout cœur que Dieu sera le centre même de notre existence, est l'objet unique de notre adoration. Et que cette Église symbolisera notre passion d'être des adorateurs d'un Dieu vivant. Voilà ce que j'espère. Voilà ce que moi je souhaite. Nous devons devenir... Bon, j'espère que nous le sommes déjà, mais des adorateurs. Et juste quelques rappels par rapport à l'adoration. Dans Hébreux 1, 6... Nous devons l'adorer parce que, premièrement, les anges l'adorent. Hébreux 1,6 nous dit « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Tous les anges de Dieu adorent Jésus-Christ. C'est beau. On vient de passer Noël. Dans Matthieu 2, 11, nous apprenons lorsque les mages sont venus voir le petit Jésus, parce qu'il était bébé à l'époque, enfin, lorsqu'il est né, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils adorent Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, verset 16, nous voyons que les disciples l'adorèrent aussi. Matthieu 28, 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Les disciples adorèrent Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que le ciel entier aujourd'hui adore le Seigneur. Dans Apocalypse 4 et le verset 10, nous lisons ceci. Les 24 vieillards se prosternèrent donc dans le ciel devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Le ciel adore aussi le Seigneur. Donc, je pense que la conclusion est simple. Nous sommes appelés à être des adorateurs du seul vrai Dieu vivant. Et dans Jean 4, 24, Jésus le dit comme ceci. Il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien sûr, Dieu est esprit, donc on l'adore avec notre esprit. Lorsque vous priez, lorsque vous l'adorez, lorsque vous chantez, c'est votre esprit qui adore ce Dieu vivant et selon la vérité, toujours selon les directives qui sont clairement ici données dans la parole de Dieu. Alors voilà, ce matin, pour nous aider à comprendre cette priorité, j'ai pensé au psaume 84. Le psaume 84 est souvent appelé la perle des psaumes. Le psaume 23 est le psaume le plus populaire, le psaume 103 le plus joyeux, le psaume 119 le plus long et le plus profond, le psaume 51 le plus humiliant, mais celui-ci, le psaume 84, est peut-être le plus beau des psaumes d'adoration. Voyons en premier l'arrière-plan. L'arrière-plan. Allons au psaume 84. Il est dit au verset 1, au chef des chantres, sur la guitite des fils de Corée, psaume. Ce psaume est donc dédié, nous le voyons ici, au chef des chantres, qui veut dire qu'il avait comme but être chanté par la chorale du temple. C'était un chant, comme tous les psaumes, du moins la plupart. Il y avait un instrument qui devait l'accompagner, c'est le guitite. Aussi mentionné dans le psaume 8, cet instrument était probablement une sorte de harpe en forme de guitare associée avec le pays de Gath, une ville du pays des Philistins. C'est une guitare, c'est une guitite, quoi, d'accord? Qui connaît la guitite? Moi pas. Et le psaume est des fils de Corée. Alors les Coréites, ici les Coréites, étaient descendants de Lévi par Coba. Et ces Coréites avaient deux fonctions principales. Ils étaient les musiciens du temple et les gardiens des portes du temple. Dans 1 Chronique 6, et le verset 22, c'est important, c'est un détail important, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Dans 1 Chronique 6 et le verset 22, il est dit, les fils de Kehath, etc., Corée, son fils. Bref, il montre simplement que dans la lignée du temple et de ses serviteurs, il y avait ces gens-là. Versets 31 et 32 nous disent « Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut un lieu de repos. Et ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle que leur était prescrite. » Tout ça pour dire, c'est bien souligné ici, que ces Coréites faisaient partie de ceux qui chantaient dans le temple. Premièrement dans l'enceinte du tabernacle et ensuite dans le temple. Et dans 1 Chronique 26:1, et ça c'est aussi très important, vous allez voir dans quelques minutes, nous apprenons qu'ils étaient aussi les portiers du temple. 26:1 dit « Voici les classes des portiers, et le premier nom qui suit, des Coréites. » Donc c'était les portiers qui laissaient rentrer et sortir les gens. Alors c'est un psaume appelé un psaume d'ascension, comme les psaumes 120 à 134, c'est un psaume de pèlerinage. Il exprime la joie que ressentaient les pèlerins qui s'avançaient vers Jérusalem, puis entraient dans le temple pour célébrer l'une des fêtes. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des pèlerinages, il y a des gens qui font toutes sortes de pèlerinages dans la vie, mais c'est vrai que quand on fait un pèlerinage, on se concentre, et là surtout ici, on se concentre sur l'endroit, mais aussi sur la symbolique de l'endroit. Et là, ce qu'on arrivait au tabernacle ou au temple plus tard sous Salomon, c'était tout ce désir d'être dans ce lieu pour adorer le seul vrai Dieu. Et donc les Coréites étaient ceux qui voyaient les pèlerins arriver au temple, puisqu'ils étaient les portiers et aussi les chantres. Mais je pense qu'on peut aller plus loin encore dans l'analyse du contexte de ce psaume. Parce qu'on a vu dans notre lecture qui a établi les Coréites. David, le roi David. Lui les a établis comme musiciens dans le temple et portiers. Et c'est intéressant qu'il y ait un incident dans la vie du roi David qui relève l'importance pour lui de ce psaume. Car David lui-même a été pèlerin pendant une période de sa vie. Et pendant cette période de pèlerin, il ne voulait qu'une chose, revenir à Jérusalem pour adorer Dieu dans le temple. Je vous raconte tout simplement l'histoire rapidement, d'accord, on ne va pas le regarder en détail. Mais vous vous rappelez que le roi David était le roi bien-aimé d'Israël. Pourtant, 30 ans dans son règne, un changement dramatique allait avoir lieu. Son troisième fils, nommé Absalom, a décidé que son père avait été roi assez longtemps. Et que son père devait être remplacé. Devinez par qui ? Par lui, c'est logique. Et donc il était convaincu que c'était lui maintenant l'élu qui devait remplacer son père. Donc il complote un coup d'état pour voler le trône de son père. Première chose qu'il fait, il tue son frère aîné Amnon. Son deuxième frère, Chiléad, était déjà mort à la naissance. Donc cela laisse un homme, Absalom, comme héritier légal du trône. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble une armée de proches amis et il marche contre Jérusalem pour renverser son père, le roi David, du trône. Je crois qu'ils avaient plusieurs problèmes familiaux, si vous voulez mon opinion là-dessus. Alors bien sûr, David réalise trop tard ce qu'il se passait. Il n'avait qu'un recours, c'est de fuir Jérusalem avec 600 hommes. Et dans 2 Samuel 15, on peut lire quelques versets par rapport à cela. 2 Samuel 15 et le verset 13, où il est dit ceci. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Donc il dit « Écoutez, on ferait mieux de partir, sinon ça va vraiment être grave. » C'est intéressant de noter qu'au moment où David fuit la ville, l'arche de l'Alliance, ce coffre dans lequel se trouvaient les tablettes des 10 commandements donnés à Moïse, montée de 2 chérubins, qui était l'endroit même où Dieu rencontrait son peuple, a été ramenée à Jérusalem. Dans 2 Samuel 15 et le verset 24, nous lisons « Tsadok était aussi là, avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu, et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. » Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche de sa demeure. Voilà, Tsadok lui dit, bon, bah, écoute, David, tu dois fuir, on va prendre l'arche avec toi pour que tu sois béni. David dit, non, c'est trop risqué, il faut laisser l'arche dans Jérusalem. Donc il dit, reprends l'arche dans Jérusalem et moi je partirai sans l'arche. Je suis sûr que Dieu me ramènera un jour à Jérusalem pour revoir l'arche et sa demeure. Surtout la demeure. Mais s'il dit, je ne comprends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qu'il fasse avec moi, ce qui lui semblera bon. Et je pense que c'est important de noter ces choses. Parce que certains commentateurs pensent que c'est peut-être David qui a écrit ce psaume, repris par les fils de Corée, parce que David, dans sa séparation de Jérusalem et de l'endroit qu'il chérissait tellement, c'était le tabernacle à l'époque. Et bien maintenant qu'il était séparé, il languissait revenir à Jérusalem et être de retour dans l'endroit qu'il aimait de tout son cœur. Il est maintenant en exil, coupé de sa ville bien-aimée, coupé de la maison de Dieu qu'il aimait tant. Il était lui-même pèlerin, languissant d'être de retour à Jérusalem. Et c'est pour ça que ce psaume est considéré un des plus beaux psaumes de toute la Bible, car c'est le pèlerin. Et mes amis, je vous rappelle que nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes tous des pèlerins. Alors bien sûr, de manière ecclésiastique, si je peux utiliser ce mot, on est pèlerin du fait qu'on est en train de se rencontrer dans un hôtel, d'accord. Mais on est pèlerin sur terre parce que notre vraie demeure, c'est le ciel. Et un jour, notre cœur y sera pour du vrai. Mais pour l'instant, c'est qu'une attente. On languit être dans la présence du Seigneur. Donc nous sommes tous pèlerins. Mais là, il y a vraiment quelque chose de physique et de réel. David est coupé de sa ville, il est coupé de cet endroit où Dieu se rencontrait avec son peuple, cet endroit où tous ses sacrifices symbolisaient le pardon des péchés, et c'est là que David aimait être. Et c'est avec cet arrière-plan qu'on comprend maintenant la force de ce psaume. Psaume 84. Regardez maintenant avec ce contexte. Ce que David, moi je pense que c'est vraiment un psaume de David, repris par les fils de Corée. Il dit au verset 2, là c'est le premier point, en fait il y a trois points, vous allez voir. Le désir pour la maison de Dieu. Là il exprime son désir, c'est l'expression de son désir au verset 2. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Vous savez, c'est marrant, hein, quand on est coupé d'une chose qu'on aime, on la veut d'autant plus. C'est pas vrai? Écoutez, je pars en voyage presque 2 semaines, vendredi. Déjà, j'ai le cœur lourd par rapport à la famille avec qui je suis aujourd'hui, ma famille. Mais de savoir que je vais devoir être absent, je les veux déjà plus en fait. C'est comme ça. David est coupé de Jérusalem. Il est coupé du tabernacle, et tant qu'il les veut d'autant plus. Les demeures, probablement une référence aux différents compartiments du tabernacle et de toute l'enceinte qui la composait. Que tes demeures sont aimables, tout ce qu'il peut faire dans le désert, c'est de réfléchir et de dire « Ah, ce que j'ai envie d'être dans les demeures du Seigneur aujourd'hui. Ça me manque. Regardez comment il les décrit, que tes demeures sont aimables. Mais oui, c'était le centre d'adoration qui constituait le temple plus tard. Elles sont aimables, pourquoi? Parce qu'elles permettaient aux croyants de l'Ancien Testament de rentrer dans la présence de Dieu. Vous connaissez le psaume 42, 2 et 3. Il est psaume très connu. Psaume 42, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. « Ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. » On peut vraiment visualiser, si je peux dire ainsi, David dans le désert. Et il pense à une biche à côté des courants d'eau qui s'en va. « Moi, j'ai qu'une chose, c'est de pouvoir être rafraîchi, désaltéré dans la présence même de Dieu. » Et l'idéal, ce serait vraiment dans Jérusalem, à ce lieu, à cet endroit. Le psaume 27, 4 aussi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie où? Dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Est-ce que vous avez déjà eu ce désir? Seigneur, tu sais, j'aime tellement être avec le peuple de Dieu, qui adore Dieu. Seigneur, Moi, j'aimerais bien y rester toute ma vie, en fait. Vous avez déjà vécu des cultes comme ça? Vous dites, s'il te plaît, Seigneur, permets que ce culte continue et continue et continue. Je suis prêt à rester toute la journée s'il fallait. Je ne veux pas retourner dans le monde. J'ai pas envie. J'ai envie d'être là, bien avec toi, t'adorer, te louer avec des frères et des sœurs. On devrait être joyeux. On devrait avoir ce désir d'être les uns avec les autres à adorer le Seigneur. C'est ce que David voulait. C'est ce qu'il languissait. Il y a encore le psaume 63, 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemplerai dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alors on n'est pas obligé d'être dans le sanctuaire pour contempler Dieu, on le sait très bien. On n'est pas obligé d'être ensemble ici pour pouvoir prier le Seigneur et l'adorer. On peut le faire seul, mais c'est vrai que quand on est ensemble, il y a une force supplémentaire, si je peux le dire ainsi, qui se dégage. On s'encourage les uns les autres. On se fortifie les uns les autres. Quand il y en a un qui est bas, l'autre le relève. On peut prier les uns pour les autres. On peut passer du temps ensemble. Et donc, il dit, oui, je veux être avec toi, mais j'ai envie d'être avec toi dans le temple. C'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Et je pense que c'est tout le fondement d'une église. Une église, c'est qu'on est ensemble. Et on adore ensemble le Seigneur. Et on s'aide à adorer et à nous rappeler, à nous refocaliser sur l'essentiel. L'essentiel. Notre relation avec Dieu et notre adoration avec un Dieu qui a fait tellement pour nous. Alors il continue son expression, verset 3, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » C'est intéressant, le mot « soupirer » exprime la faim de lion pour sa proie. Je ne sais pas si vous avez déjà été face à face à un lion qui a faim, moi jamais. Mais je peux imaginer que ça doit faire très très peur. Il est en train de dire, voilà, je suis comme un lion, j'ai tellement faim pour les parvis de l'Éternel. C'est beau ça comme image. Il n'y a rien d'autre qui va me satisfaire que toi et tes parvis, Seigneur. Rien d'autre. Est-ce que cela exprime vraiment nos cœurs? Je vous pose une question. Alors vous devez être vraiment honnête. Honnête, dans le fin fond de votre cœur, vous ne répondez pas à haute voix, bien sûr. D'accord? C'est entre vous et vous. Voici la question. Quelle est la chose aujourd'hui que vous désirez plus que toute autre chose dans votre vie? Chose qui pourrait vous rendre malade si vous ne l'aviez pas. Voilà. Quelle est la chose la plus importante que tu veux de tout ton cœur? Eh bien, lui répond au verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Pour lui, il n'y avait qu'une priorité. Dieu. Point à la ligne. Rien d'autre. C'est beau, non? Tout son désir. Et décrit par cette chose, Dieu et son temple. Son cœur ne veut que cela, son corps veut y aller en courant. Et le fait qu'il ne peut pas, le fait qu'il est coupé de sa ville, lui révèle qu'il veut ce désir encore plus, cette chose encore plus. Mais bien sûr, les parvis de l'Éternel, on l'a déjà dit, ne sont qu'un descriptif de sa volonté. Il n'est pas obligé d'être au parvis de l'Éternel, là, dans cet endroit, pour adorer Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de magnifique de pouvoir être dans ce lieu. L'illustration de son désir, et là, il faut que j'avance. En méditant ces choses, le psalmiste a soudainement un souvenir. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Regardez. Il est en train de réfléchir, donc, au tabernacle, et l'enceinte du tabernacle, et il pense aux oiseaux. aux oiseaux. Regardez le verset 4. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Hélas, il y a trois petits points parce que dans les textes, ce n'est pas tout à fait sûr, mais probablement dans ou sur tes autels, éternel des armées. Mon roi et mon Dieu. Et quelque part, il est en train de se dire, mais il y a une grande injustice dans la vie. Les oiseaux, les passereaux et les hirondelles ont, eux, accès au parvis de l'Éternel. Ils peuvent même aller trouver des endroits dans cette enceinte pour construire leur nid et y mettre au monde leurs petits. Cela, pendant que le roi d'Israël est en cachette et dans le désert, il est coupé de cet endroit préféré. Mais il déplore cet état des choses. Et il se dit, mais les oiseaux sont plus privilégiés que moi. Mais ce n'est pas juste. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils faisaient les passereaux et les hirondelles dans les parvis de l'Éternel? Pourquoi on ne les chassait pas? C'est assez salissant, les oiseaux. Vous avez été à Venise, là où il y a des pigeons? Waouh! C'est intéressant que même la loi avait quelque chose à dire par rapport aux oiseaux. Dans Deutéronome 22 et le verset 6, si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Même un respect envers les oiseaux. C'est beau. Bien sûr, nous connaissons Matthieu 6, 26, qui nous dit de regarder les oiseaux du ciel, qui ne sèment et ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas plus qu'eux? Dieu prend soin même des oiseaux. Alors c'est intéressant de penser de nouveau à ces oiseaux qui sont en train de faire leur nid dans l'enceinte du tabernacle. Parce qu'en fait, on sait très bien que les oiseaux ne passent pas 9 mois de l'année ou 12 mois de l'année à être dans leur nid. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien le nid, c'est quelque part la récompense après des mois de pèlerinage. C'est ce qu'on appelle les migrations. J'aimerais vous montrer une photo étonnante. Peut-être on peut éteindre la lumière là. Tu peux aller à la photo? Possible. Céline, je sais que tu peux faire des miracles. Vas-y. D'accord. En 2007, un satellite a confirmé que la migration la plus longue au monde est celle effectuée par le Godwit à la queue barre. Est-ce que vous connaissez cet oiseau?
Non.
Moi non plus, jamais de ma vie, d'accord? C'est le Godwit à la queue barre qui fait, écoutez bien, un vol non-stop de 11 026 km entre la mer Jaune en Chine jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et là, vous le voyez, par-dessus les eaux de la mer. Alors moi, je me dis que le Godwit à la queue barre, lorsqu'il arrive et il construit son nid, il doit être super content, quoi. il doit être super heureux de pouvoir enfin se reposer dans son nid. Et je crois que là, il y a toute une image ici. C'est un peu comme David, quoi. David est loin, il est en migration et il n'espère qu'une chose, son nid, d'être avec le Seigneur dans les parvis de l'Éternel. Il se sent comme un oiseau migrateur. Et il est jaloux de ces oiseaux qui sont, eux, dans la maison de l'Éternel lorsque lui en est dehors. Donc ceci mène au deuxième point. Au deuxième point. Premièrement, le désir pour la maison de Dieu. Deuxièmement, le voyage à la maison de Dieu. Au verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Les versets 5 à 10, enfin jusqu'à 8, décrivent enfin le voyage effectué. Maintenant, il est en train d'imaginer qu'il est vraiment en train de retourner à Jérusalem. Du moins dans son cœur, c'est ce qu'il imagine. Je sais pas, c'est un peu comme partir en vacances. Quand maman et papa nous annoncent qu'on va partir, je ne sais pas, disons en Espagne, en juillet, et c'est que le mois d'avril, eh bien tout d'un coup, on y pense, on y rêve, on y réfléchit, on se prépare. Et finalement, le jour J arrive. On met les bagages dans la voiture. Mais attendez, voilà. L'enthousiasme est au maximum. Et il est en train d'imaginer le moment où il va reprendre le chemin pour Jérusalem, pour être dans les parvis de l'Éternel. Et premièrement, on voit le plaisir du voyage. La joie du pèlerin est au comble. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils pensent à ces chemins, qu'ils soient dans son cœur, parce qu'il y pense, ou dans la réalité, il y a une sorte de presque une confusion là. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et oui, ces versets décrivent parfaitement les émotions de celui qui faisait son pèlerinage. Alors les Juifs avaient trois pèlerinages annuels qu'ils devaient faire, Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Le problème avec les pèlerinages, c'est qu'ils étaient coûteux, ils exigeaient du temps, et parfois des semaines, et surtout il y avait le danger d'être attaqué pendant les pèlerinages. Vous vous rappelez la parabole du bon samaritain? Cependant, tellement fort était le désir d'aller à Jérusalem que le peuple était prêt à prendre tous les risques pour y aller. Rien ne les arrêterait. Alors, c'est ce que David fait comme constat dans son propre cœur. J'irai point à la ligne. Et c'est pour ça, juste de penser au retour, il se dit être heureux, verset 5. Et au verset 6, heureux encore. Cela produit en lui une fontaine de bonheur, quoi. C'est comme les vacances. On sait qu'on va aller en Espagne. Waouh, je suis déjà heureux, quoi. Et là, il sait qu'un jour, il retournera. Dans les parvis de l'Éternel, il est déjà heureux dans son cœur. C'est là où il veut être. Le danger du voyage. Regardez verset 7. Cette vallée de Baca. Intéressant que la dernière étape avant d'arriver à Jérusalem était de passer dans une vallée dite Baca ou Beka. C'était une vallée aride, nommée par certains la vallée de larmes et de pleurs. C'était une vallée étroite qui avait des eaux boueuses et sales. Elle avait des rochers sur les deux côtés et même des tombes avaient été creusées dans ces rochers. Cette vallée était aussi connue pour ses arbres de balsame qui sécrétaient un fluide gommeux comme on peut trouver aujourd'hui dans la vallée de Mecque en Arabie Saoudite. Et donc, quelque part, de passer à travers cette vallée avant d'arriver à Jérusalem était, en quelque sorte, le bas point pour les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. C'est un peu comme le psaume 23 que vous connaissez. Dans le psaume 23, il dit ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Mais il y a quand même la vallée de l'ombre de la mort. Et cette vallée donc de Beka symbolisait ce danger. Et ensuite, nous voyons la récompense du voyage, une surprise merveilleuse les entait de l'autre côté de cette vallée. Non seulement Jérusalem, bien sûr, mais d'après ce que j'ai lu, il y avait aussi des eaux fraîches qui étaient souvent là, qui restaient à cause des pluies rafraîchissantes. Des sources faisaient que les pèlerins, donc ces sources faisaient que les pèlerins oubliaient la vallée de Beka derrière eux pour voir la joie d'une pluie rafraîchissante et Jérusalem un peu plus loin. Et donc, cette vallée de Beka, verset 7, lorsqu'il traversait la vallée de Beka, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et regardez au verset 8. Au fur et à mesure qu'ils avançaient vers Jérusalem, et surtout une fois sortis de la vallée de Beka, leur force augmente pendant la marche. L'image est frappante. Nous avons tous, si je peux faire cette symbolique, des vallées de Baca. Nous avons des épreuves et des difficultés dans la vie. Tous. Et nous devons traverser parfois ces vallées bien difficiles. Mais regardez le chrétien. Le privilège qu'il a de regarder au-delà de cette vallée. Nous sommes pèlerins, mes amis. La demeure du Seigneur nous attend. C'est toute la différence. Le non-croyant ne voit que la vallée. Le croyant voit au-delà de la vallée. Il voit Jérusalem. Il voit les parvis du Seigneur. Il voit les eaux rafraîchissantes au-delà du parvis, au-delà de la vallée de Baca. Et donc, seul celui qui connaît le Dieu vivant peut en fait, même dans l'épreuve, louer le Seigneur. Il peut louer le Seigneur. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que la force augmente pendant la marche. C'est comme si l'épreuve nous fortifie, nous focalise encore plus sur l'essentiel de la vie, n'est-ce pas ? Dans quelque part, c'est pour ça que Jacques nous dit, nous devrions considérer les épreuves une source de joie. Parce que Dieu utilise ces épreuves pour nous focaliser sur l'essentiel, mes amis. Et c'est ce que je souhaite pour notre Église. Que nous soyons une Église en 2008 où on se focalise sur l'essentiel. L'essentiel. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les choses de la vie courante, non. Nous devons travailler, nous devons payer nos factures, nous devons faire ce que nous devons faire. On a même le droit de partir en vacances. Ce n'est pas un mal. Mais est-ce que mon cœur est rifté sur l'essentiel ? Est-ce que je me sens pèlerin au Seigneur ? Il n'y a qu'une chose que je souhaite et que je désire. Toi et ta présence dans ce lieu. Et ceci mène à l'aide pour le voyage. Verset 9, l'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille. Vous savez, ce n'est pas facile de passer par la vallée de Baca. Parfois, nous devons prier, demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je pensais que je partais pour un pèlerinage heureux à Jérusalem, et là, je me trouve dans la galère, je ne comprends pas. Alors, on prie. Et voilà, le Seigneur, il connaît parfaitement ce dont on a besoin. Et il nous donne cet accès à lui par le biais de la prière. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Dieu des armées, écoutez-lui, les dieux au-dessus des anges, au-dessus du monde, au-dessus de l'univers. Et si c'est vrai, si c'est vraiment le Dieu des armées, ne connaît-il pas le plus petit détail de ta vie ? S'il prend soin des passereaux et des hirondelles et des oiseaux, ne peut-il pas prendre soin de ta propre vie ? Mais bien sûr. Parfois, on se désespère, et moi aussi. Des fois, je sombre dans une sorte de déprime par rapport à une chose ou une autre, et je me dis, mais John, ohé, est-ce que Dieu connaît parfaitement les détails de ta vie ? Oui. Et cela devrait mettre en moi une joie et une paix. Nous arrivons maintenant à l'arrivée, la joie dans la maison de Dieu. Le pèlerin arrive à sa destination, il éclate de joie. Il a été séparé pendant tellement longtemps que maintenant il est de retour et il veut y rester. L'expression de sa joie, il dit au verset 10, « Tu es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » C'est intéressant ce qu'il dit. Un jour, dans la maison de l'Éternel, pour David, était mieux que de passer 1000 jours, ou environ 3 ans et demi, ailleurs. Et il précise cet ailleurs, d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Oh, il connaissait bien la méchanceté. Absalom l'avait chassé de son trône par convoitise. Il avait vu un autre fils assassiné par Absalom. Lui-même avait commis l'adultère et un meurtre. Lui connaissait très bien la méchanceté. Bien sûr, il a été écrasé par la culpabilité. Le psaume 32, le psaume 51, c'est sa confession. Donc il a tout confessé, il a été pardonné par le Seigneur. Mais il connaissait les ravages du mal et de la méchanceté. Et c'est ce roi David-là qui écrit ces mots. Et il dit, j'en ai marre, je n'en veux plus de cette méchanceté, je n'aime pas cette vie passée. Ô Seigneur, aujourd'hui je ne désire qu'une chose, c'est de passer toute ma vie dans tes parvis. Voici le cœur de ce psaume. Et c'est comme j'ai déjà dit, la différence entre croyant et non-croyant. Le croyant aime Dieu, il regarde en arrière dans sa vie et voit la méchanceté de sa propre vie, il n'en veut plus. Il veut tout laisser, tout abandonner le mal et venir au parvis de Dieu et l'adorer. Il dépose à ses pieds son péché, son mal et épouse son fils Jésus-Christ afin qu'il soit lavé par son sang. Il veut être comme les passereaux, comme les hirondelles. Il veut carrément construire son nid dans les parvis de l'autel, aussi proche de l'autel qu'il est humainement possible de faire. Tout son être vibre pour Dieu. Il se réveille le matin et la bénédiction de Dieu est sur ses lèvres. Tout au long de la journée, il pense à Dieu. Et le soir, il en veut encore. Il veut toujours plus penser à Dieu. Il veut être proche de Dieu. Il veut être avec le peuple de Dieu, dans le temple de Dieu, pour louer et adorer Dieu. Toute la semaine, il languit pour une chose, être avec Dieu dans les parvis de l'Éternel, avec le peuple de Dieu. Et je crois qu'on doit se poser cette question. Est-ce que je vibre pour la même chose? Il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Il dit, écoute, même si je ne peux pas être à côté de l'autel, parce que c'était les prêtres qui pouvaient y être, moi je suis d'accord d'être portier. Je suis d'accord d'être sur le seuil d'une porte. Carrément, ouvrir la porte pour un pèlerin et guigner à l'intérieur. Wow, je serai content, Seigneur, c'est tout ce que je veux. Même si je ne peux pas être à l'intérieur, ce n'est pas grave. Juste sur le seuil. Juste toucher la porte. C'est beau. C'est beau. Et les raisons pour sa joie, on les voit au verset 12. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil, un bouclier. Il donne la vie, il protège. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Oui, il nous donne la grâce. Il nous donne la gloire vis-à-vis de lui, mais même vis-à-vis d'autres. Et regardez ce qu'il dit. C'est étonnant. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça, c'est une promesse formidable. Vous dites, mais John, moi, je ne comprends pas. Moi, je suis un chrétien, j'aime le Seigneur, j'adore. J'ai l'impression qu'il n'y a que de la galère dans ma vie. Il n'y a que des problèmes. Attends, relis bien ce verset. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si tu penses que ce que tu reçois n'est pas un bien, c'est peut-être toi qui te trompes. Peut-être que Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Et ce que tu veux n'est pas vraiment ce que lui pense est le meilleur pour toi. Et ça, nous devons l'accepter. Job, par exemple. Est-ce que vous croyez qu'il voulait être éprouvé comme il a été éprouvé? Non. Est-ce que c'était dans les plans de Dieu? Oui. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. C'est que nous avons une autre idée de ce que Dieu devrait nous donner. De ce que Dieu a. Et là, il dit clairement, il ne refuse aucun bien, mais il faut définir le mot bien. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ton travail et mon travail, c'est de marcher dans l'intégrité. Dieu bénit comme il veut bénir. Et Job était l'homme le plus intègre de son temps, nous dit Job 1:1. C'est merveilleux. Alors il conclut verset 13, l'Éternel des armées, heureux l'homme, et voici la clé, qui se confie en toi, mes amis. Voilà ce que Dieu veut de nous. Qu'on se confie en lui, qu'on lui fasse totalement confiance pour tout. Seigneur, ma vie t'appartient. Tu m'as créé, tu m'as racheté par Jésus-Christ. Je ne m'appartiens pas, je t'appartiens. Guide-moi, fais ce que tu veux de moi. Je me confierai en toi, quoi qu'il arrive. Sommes-nous des pèlerins, mes amis? Sommes-nous des pèlerins? Dirigeons-nous vers les parvis de l'Éternel? Est-ce que ça, c'est la priorité absolue de ma vie? Sommes-nous comme des passereaux et des hirondelles? Est-ce que nous voulons vraiment faire notre nid dans les parvis de l'Éternel? Ou est-ce que nous sommes tentés de faire notre nid autre part? Moi, j'espère, pour l'année à venir, que vous et moi, notre cœur, notre être, tout ce que nous sommes, soit dirigé vers cette priorité d'adorer Dieu. Et lorsque nous sommes ensemble, de voir cette adoration, je ne sais même pas comment décrire, être puissante. Prions. Père, merci. tout cœur pour ce psaume 84 qui nous rappelle l'essentiel de ce que tu veux pour nous pour l'année à venir. Fais de nous des adorateurs qui sachons adorer Dieu en esprit et en vérité, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.